Frères et sœurs, hier encore, Christ était dans la tombe. Aujourd'hui, je vous l'annonce, il est ressuscité. Face à nos morts, il est la vie. Dans nos obscurités, il est lumière. Au creux de nos silences, il est parole. Sur nos tristesses, il est la joie de Dieu. Christ est ressuscité. Pour nous, il est vie et lumière. Il est la parole qui chasse les ténèbres. Son évangile renouvelle notre terre. Oui, frères et sœurs, réjouissons-nous, car le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Je vous invite à chanter cet Alléluia. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui la force, la paix, l'espérance et cette vie nouvelle. Amen. Bienvenue, bienvenue en ce jour tellement important. Bienvenue à vous qui êtes des paroissiens fidèles et habitués de ce lieu. Bienvenue à vous qui êtes ici peut-être pour la première fois ou en visite. Vous êtes tous ici chez vous dans la maison du Seigneur. And a warm welcome to all our visitors from different parts of the world. Be welcome. It's a pleasure to worship with you this morning. Bienvenue, oui, à chacune et chacun d'entre vous ce matin. En ce jour de fête, en ce jour où la lumière terrasse les ténèbres, où la vie trouve toujours un chemin pour passer à travers le tombeau fermé. Oui, aujourd'hui, c'est Pâques, bonne nouvelle, qui nous dit que toujours et encore, le Seigneur ouvre devant nous un chemin. Aujourd'hui, je me réjouis de voir aussi parmi nous plusieurs familles qui vous êtes venues avec quelques enfants, et cela nous fait plaisir hein, en ce jour de Pâques. Alors, j'aimerais dire deux, trois mots pour les enfants, puis j'aurai une petite surprise pour ceux et celles qui ont encore le cœur d'un enfant. Nous sommes dans cette cathédrale immense, majestueuse, et personnellement, je suis toujours impressionné quand je vois ces bâtiments et je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour construire un tel ouvrage? Et d'imaginer tous ceux qui ont posé leurs pierres à cet édifice, qui ont grimpé sur des échafaudages branlants peut-être à l'époque pour aller construire cette charpente, cette toiture, pour sculpter les pierres tout là-haut. Combien d'hommes et de femmes ont œuvré dans cette cathédrale. Et aujourd'hui encore, des milliers de personnes viennent des quatre coins du monde pour prier, pour se recueillir, pour admirer, pour visiter cette cathédrale, cette maison du Seigneur. Et pourtant, à Pâques, Dieu est venu nous apprendre une chose, c'est qu'il n'est jamais enfermé dans un bâtiment, dans un endroit, dans une pièce. Au temps de Jésus, on croyait que Dieu habitait au cœur d'un temple, d'un édifice absolument majestueux. Et puis, on nous dit que ce fameux rideau du temple qui protégeait le lieu le plus sacré, ce jour de Pâques, s'est déchiré, comme pour nous rappeler que Dieu ne pouvait pas habiter dans une demeure faite de mains d'hommes. Il choisit d'habiter une nouvelle demeure, non plus les temples ou les cathédrales, mais notre cœur qui devient la plus belle de toutes les cathédrales. Alors, tout à l'heure, pendant le chant, tous les enfants qui le voudront pourront s'avancer et j'ai quelques petits souvenirs de la cathédrale. Merci à la Fondation des Clés de Saint-Pierre pour vous souvenir de ce lieu majestueux et pour vous rappeler que le lieu encore plus majestueux où Dieu habite, c'est notre cœur. Mais je vous invite d'abord à la prière. Ô Seigneur, tu nous regardes tous de ce regard d'amour que tu as posé sur la femme adultère, sur la Samaritaine, sur les brigands pendus près de toi. Des profondeurs où nous sommes enfoncés, Seigneur, nous crions à toi. Sauve-nous puisque tu nous aimes. Seigneur, tu l'as dit, tu n'es pas venu pour les justes, mais pour les pauvres, pour les malades, pour les pécheurs comme moi. Seigneur, je nous confie tous à toi. Je suis sûr de ton amour, de cette force de vie que tu nous offres, de notre cœur, oui, tu fais ta demeure. Toi qui es Dieu et qui es devenu un homme pauvre, comme nous tu as eu faim et soif, comme nous tu as eu peur et pleuré, comme nous tu es mort. Ton corps a été mis dans la tombe comme le nôtre le sera, et tu en es sorti transfiguré, comme nous en sortirons tous un jour. Oui, la résurrection grâce à toi nous attend, elle est à l'œuvre. Et nous t'en rendons grâce. Gloire à toi, Seigneur de la vie. Amen. Et nous allons chanter le cantique 319. Et c'est pendant ce cantique que tous les enfants qui le voudront pourront s'avancer et je leur remettrai un petit souvenir. Alors, pendant ce temps, nous chantons en toi, Seigneur, et par ton esprit au cantique 319. Dans la tradition de toute l'Église, il est de coutume que durant les offices de Pâques, il y ait un temps de renouvellement des baptêmes. Un temps où chacun et chacune peut exprimer en son sein son désir de se reconsacrer à Dieu. Un temps où l'on exprime dans la prière son souhait de marcher à la suite du Christ. Et ce matin, nous allons pouvoir vivre ce temps, chacun, chacune, pour nous et en communion toute particulière avec Carmen. Carmen est une fidèle paroissienne depuis de longs mois maintenant et qui a exprimé le désir de confirmer ici, au sein de notre communauté, le baptême qu'elle a reçu il y a quelques années au Brésil. Tout un chemin de vie et un chemin spirituel l'ont conduite jusqu'à notre communauté. L'alliance que Dieu a scellée au moment de son baptême reste unique et valable. Mais Carmen a éprouvé le besoin de réaffirmer publiquement ici son désir de vivre à la suite du Christ, et nous sommes les témoins reconnaissants de ce chemin de vie et de foi. Prions. Seigneur, aujourd'hui est un jour de fête et d'allégresse, car tu nous rejoins. Tu viens, tu es là, présent, vivant pour toujours. Tu appelles chacun de nous par notre nom, et les pleurs se changent en joie, le désespoir en espérance. Ta présence illumine et transforme notre quotidien. Avec toi, Seigneur, se lève l'aube d'un jour nouveau. Bénis Carmen qui s'engage à ta suite et donne à chacun et chacune d'entre nous le désir renouvelé de te suivre dans la confiance et l'amour. Amen. Et j'invite Carmen à me rejoindre qui va maintenant nous faire part de sa déclaration de foi.
Mesdames, Messieurs, les gens, bonjour à tous. La parole de Dieu en Jean 8, 32 dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » Il y a beaucoup de façons d'évangéliser aujourd'hui avec des théologies, des promesses et des enseignements qui ne sont pas bibliques. Les faux théologies ne révèlent pas la vérité du sacrifice de Jésus sur la croix. Les faux enseignements conduisent les gens à des pratiques qui les piègent. Les faux promesses de prospérité, de santé, de bonheur, ce n'est pas ce que Jésus a promis. Moi, j'ai connu ces faux promesses, ces faux évangiles. Mais, pour la grâce de Dieu, depuis 8 mois, l'Esprit Saint m'a montré la vérité du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour nous sur la croix. Et aujourd'hui, je suis ici pour d'abord, demander pardon à Dieu pour mes ignorances spirituelles et mes péchés. Après, dire merci à Dieu de me sauver. Et le principal, pour confirmer ma foi en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon unique Sauveur. Sola fide. Merci.
Carmen, vous confirmez aujourd'hui l'alliance de votre baptême et le Seigneur s'en réjouit. Et nous en sommes les témoins reconnaissants. Oui, Carmen, le Seigneur vous aime d'un amour unique et il vous accompagne tous les jours. Devant vous, il ouvre un chemin de vie. Carmen, vous pouvez compter sur le Seigneur comme le Seigneur compte sur vous. Allez dans sa paix. Le Seigneur est votre lumière. Il sera vous accompagner chaque jour. Amen.
Carmen, ça c'est votre papier, mais attendez, j'ai encore quelque chose pour vous. Il y a ici le certificat de confirmation, mais il y a surtout un petit verset que j'ai choisi, comme je le fais toujours au moment des baptêmes et des confirmations. Vous aurez l'occasion de le lire tout à l'heure. Et nous allons nous lever pour participer à ce moment en confessant tous ensemble notre foi. Et je vous inviterai à répondre avec les phrases qui sont écrites dans le feuillet en italique. Voilà. Prions. En ce matin de Pâques, nous croyons en Dieu. Malgré les apparences et le manque de preuves, nous croyons qu'il est présent. Malgré les prétentions de notre intelligence et les révoltes de notre cœur, nous croyons qu'il est notre Père. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent de lui. Nous croyons qu'il nous parle aujourd'hui. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons qu'il dirige nos vies. Nous croyons au Saint-Esprit, malgré nos échecs et nos incertitudes, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré nos divisions et nos rancunes, nous croyons qu'il nous ouvre au pardon. Et nous prolongeons en chantant au cantique 303.
Nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24. Le premier jour de la semaine, de grand matin, elles vinrent à la tombe en portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, comme elles en étaient déconcertées, voici que deux hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre quand ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent ces paroles. Elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala et Jeanne et Marie de Jacques. Leurs autres compagnes le disaient aussi aux apôtres. Aux yeux de ceux-ci, ces paroles semblèrent un délire et ils ne croyaient pas ces femmes. Pierre cependant partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que les bandelettes et il s'en alla de son côté en s'étonnant de ce qui était arrivé. Et nous lisons encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, ce verset. Simon-Pierre dit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Thank you.
Franchement, vous y croyez, vous, à la résurrection? L'autre jour, je discutais de ça avec mon groupe de jeunes, et la première réponse qui vient lorsqu'on leur pose cette question, c'est « ben non ». Parce que la réalité de la mort semble incontournable. Quand on est mort, et tout le monde le sait. Et nos yeux, notre raison, nous le rappellent à souhait. Incinérés, nous ne sommes plus qu'un petit tas de cendres. Inhumés, nous retournons à la poussière. Il y a dans la mort quelque chose d'absolument irrémédiable, de définitif, qui rend tout retour en arrière impossible. Et c'est bien là la dureté de la mort, ce qui fait si mal avec la mort. C'est qu'il y a un avant et un après, et que ces deux réalités ne peuvent pas se rejoindre. Une fois qu'on a franchi le seuil de la mort, il n'y a pas de retour en arrière. Alors, croire à la résurrection, n'est-ce pas finalement qu'un doux délire, un baume un peu fade pour atténuer la douleur de la séparation, pour effacer les angoisses de la mort, ou, comme le disent les disciples, une forme de délire de femme insensée, un peu naïve? Si nous comprenons la résurrection comme ce qui pourrait nous faire éviter la mort, alors oui, tout cela ne semble que délire. Si l'on croit que notre espérance peut gommer la radicalité de la mort ou nous faire revenir en arrière comme par magie ou pour prolonger notre vie, tout cela est insensé en effet. Car on le sait bien, nous en avons tous fait l'expérience. La mort, on ne peut pas l'effacer comme ça. Et la foi ne saurait être une illusion pour nous faire éviter la mort. La mort est là, et j'ai envie de dire, elle fait partie de la vie. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou non, du reste, ça ne change rien. Et c'est ce qui peut paraître un peu paradoxal avec la foi chrétienne, c'est qu'elle ne fait jamais l'économie de la mort. Croire n'est pas et ne sera jamais une invitation à quitter notre réalité terrestre, humaine, pour un monde spirituel, désincarné et supérieur. La foi, au contraire, nous invite toujours à garder les pieds au plancher, pour affronter notre destinée avec courage, humilité, mais aussi avec lucidité quant à nos limites, notre fragilité, que la mort vient inéluctablement nous rappeler, et parfois sans sommation. Alors oui, la foi chrétienne, avant de parler d'espérance, place la mort au cœur de son message. Étonnant. Étonnant, je le rappelle chaque fois, que le symbole de la foi est une croix, lieu le plus horrible, le plus sauvage, lieu de mort et de souffrance, absolument innommable. Alors, aujourd'hui, nous portons des jolis pendentifs en forme de croix. Elle se décline de toutes sortes de manières, cette croix, mais c'est un peu comme une potence. Une chaise électrique, une guillotine, c'est déjà moins évident à porter comme pendentif. Il y a 2 jours, nous vivions Vendredi Saint, le cœur de ce temps de la Passion. Vendredi Saint, pour moi, c'est le jour le plus important de l'année, le jour qui ne nous laisse jamais indemnes. Le jour où l'on mesure l'ampleur du don que Dieu nous fait en venant nous rejoindre jusque sur la croix, jusque dans nos lieux de mort. La croix placée au centre de notre foi. Il n'y a pas de Dieu triomphant qui n'ait pas passé par le scandale et la folie de la croix. Comme si besoin était, Dieu, vendredi saint, nous rappelle la violence et la douleur de la mort. Même lorsqu'elle se passe bien, lorsqu'elle intervient paisiblement dans le cours normal des générations, la mort toujours fait mal, car elle déchire, des liens laissent un vide, un goût d'inachevé. Et la foi, si comme on l'a dit, n'est pas là pour gommer la mort, elle n'est pas là non plus pour nous l'expliquer. La mort demeure un mystère qui ne peut être approché et compris que par ceux et celles qui en ont franchi le seuil. Et si Vendredi Saint nous a plongés dans les abysses de l'incompréhension, partagée par le Christ lui-même dans son cri déchirant sur la croix, aujourd'hui, matin de Pâques, ne vient pas comme l'explication qui permettrait de comprendre l'incompréhensible ou de mettre des mots sur l'indicible, non. Alors oui, s'il y a un avant et un après la mort, s'il y a un en-deçà et un au-delà de la mort, le matin de Pâques ne vient en aucun cas nous expliquer cet au-delà. De lui, nous ne pouvons rien dire. Et personnellement, je n'ai pas envie de perdre du temps à essayer d'imaginer ce que cet au-delà peut être. Mon cerveau est bien trop petit pour appréhender une telle question. En revanche, ce matin de Pâques, s'il ne fait pas l'économie de la traversée de la mort, me parle de la vie. Non pas d'une prolongation ou d'une revivification de ma vie d'ici-bas, comme si la vie pouvait être un éternel recommencement, que Dieu nous en préserve. Dieu merci. Ma vie ici-bas a eu un début, elle aura une fin. Mais ce matin de Pâques, parler de résurrection nous est offert comme le signe d'une réalité invisible qui est déjà à l'œuvre. La foi chrétienne ne gomme pas la mort, même si la mort demeure un mystère. La foi chrétienne nous parle aussi de vie. Et cette vie, j'ai envie de dire, elle est tout aussi mystérieuse que la mort. Ou plutôt, elle a une profondeur mystérieuse. Car la vie, c'est presque tout aussi compliqué à décrire que la mort, finalement. On le voit bien, que la vie ne peut se résumer à avoir un cœur qui bat. Toutes les questions modernes, liées aux frontières de la vie, à la naissance et à la mort, du reste, montrent à quel point il est difficile de définir ce qu'est la vie par des constatations purement pratique ou scientifique. La vie, c'est forcément plus que ce qu'on en voit, qu'on en perçoit, qu'on en comprend. Il y a une profondeur insoupçonnée à la vie en général, mais à chaque vie en particulier. Or, le monde, la réalité de notre quotidien, nos propres fragilités, rendent souvent difficile la jonction entre notre vie quotidienne, ordinaire, et cette vie profonde qui sourd en nous. Croire à la résurrection, c'est croire qu'un passage est toujours possible pour que notre vie soit illuminée, nourrie par cette réalité de vie nouvelle que Dieu place en chacun d'entre nous. Ce que le Christ veut nous montrer par sa mort et son tombeau vide, c'est qu'il ne s'agit pas de deux réalités, de deux mondes complètement hermétiques l'un par rapport à l'autre, le monde de Dieu et le nôtre, comme si l'un était pour nous aujourd'hui et l'autre était seulement promis pour l'au-delà. Certes, il ne s'agit de pas confondre l'un et l'autre. Nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Mais quelque chose de cette réalité qui nous attend dans l'au-delà peut déjà illuminer notre vie. Quelque chose de cette vie profonde peut nourrir notre vie et lui donner un sens infiniment plus riche, une force, un relèvement. Comme l'apôtre Pierre l'a si bien dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle. » Il y a, il est vrai, dans l'Évangile, une force à nul autre pareil, une force de vie offerte par le Christ, offerte à tous ceux et celles qui veulent prendre le risque de marcher à sa suite. Et cette vie-là, cette profondeur de vie, ne peut pas dépendre que du seul battement de mon cœur. En d'autres termes, et dans une logique peut-être un peu simpliste, j'en conviens, mais qui, moi, me fait du bien, on ne peut pas dire que c'est parce que mon cœur s'arrêterait de battre que Dieu devrait arrêter de m'aimer. L'amour de Dieu est bien plus fort que cela. Croire à la résurrection, ce n'est certainement pas croire à un retour en arrière, à la vie ordinaire. C'est croire au contraire à la victoire de Jésus sur la mort. C'est croire que l'amour de Dieu ne s'arrête pas à notre mort ici-bas, mais c'est encore plus que tout cela. C'est croire qu'aujourd'hui, dans notre vie, chaque fois que nous nous retrouvons arrêtés, piégés, abattus, retenus dans des filets de mort par la maladie, le deuil, la souffrance, le non-sens, la vie n'est jamais avare de moyens de nous arrêter, de nous piéger, de nous faire tomber. Eh bien, chaque fois que nous tombons, Dieu est là. Il nous tend la main pour nous relever, nous ressusciter à la vie. Ressusciter, cela ne veut pas dire autre chose qu'être relevé. Mais Pâques, vous le savez, c'est la fête du passage. Passage à travers la mer avec Moïse, lorsque le peuple se croyait acculé, piégé par la mer. Passage à travers la mort, lorsque l'on croyait qu'il n'y avait plus d'issue au tombeau. Croire à la résurrection, c'est croire que Dieu ouvre toujours devant nous un passage lorsque notre vie semble arrêtée, fût-ce par la mort elle-même. Mais croire à la résurrection, ce n'est pas seulement espérer pour nous-mêmes, c'est entrer dans cette impulsion de la résurrection. Croire à la résurrection consiste à opérer aujourd'hui des gestes qui relèvent ceux et celles qui n'en peuvent plus du désespoir, des gestes de paix, des gestes qui rendent la dignité à ceux et celles qui sont laissés de côté. Croire à la résurrection, c'est accepter de devenir nous-mêmes agents, ambassadeurs de la résurrection, là où le Seigneur nous a placés, avec la force et les charismes qui sont les nôtres. Croire à la résurrection, c'est souvent lutter avec nous-mêmes, ou parfois contre nous-mêmes, pour reconnaître tous ces moments où le Christ nous a relevés, pour que ces brèches de vie que le Seigneur ouvre dans notre vie ne se referment pas, pour que nous puissions réellement être nourris par cette vie du ressuscité, pour que notre vie ne se rétrécisse pas, mais qu'elle gagne en profondeur. Alors nous pourrons trouver ces paroles ou ces gestes qui font gagner la vie, qui donnent le courage de vivre, qui poursuivent ce mouvement de vie initié par le Christ lorsqu'il a ouvert le tombeau une fois pour toutes au matin de Pâques. Oui, au nom du Christ vivant, pour toujours. Amen.
Au fond de mon silence, il y a ton nom, Seigneur, qui chante. Au cœur de ma faiblesse, il y a ta résurrection qui attend sa plénitude. Au fond de mes discordes, il y a un souffle doux et léger qui génère la paix. Dans les questions que pose ma vie, ce ne sont pas tes réponses, mais c'est toi-même, infiniment là, qui m'aide à répondre. Voilà, je mesure, Seigneur, que je ne comprends de toi que peu de choses. Mais c'est largement assez pour me savoir aimer. Et c'est pourquoi je m'associe au peuple des croyants, qui de tout temps chante ta sainteté.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous chantons l'Agnus Dei au numéro 130. Ô Seigneur notre Dieu, si tu es aux côtés du monde, où pourrions-nous être, nous qui prétendons avancer à la lumière de l'Évangile, sinon aux côtés du monde, de tous les endroits où des vivants sont cloués, cassés, sur les chemins de tous les abandons, de toutes les terreurs et de toutes les angoisses? Où pourrions-nous être, de par notre foi même en ta force de vie, sinon à leur côté, pour lutter avec eux et les encourager à se relever? Seigneur, nous te le demandons, fais de nous les ambassadeurs de ta résurrection et nous te remettons, Seigneur, tous ceux et celles que nous aimons, ceux pour lesquels nous te prions d'ouvrir devant eux un chemin de vie, un chemin de relèvement. Et nous te prions aujourd'hui pour toutes les communautés sœurs dans le monde entier qui célèbrent ta résurrection, en te confiant en particulier toutes les communautés qui doivent affronter la guerre, la terreur, la persécution. Seigneur, que ta parole de vie les touche et nous fasse entrer avec elles dans une communion profonde. Et toutes nos prières, Seigneur, nous voulons les réunir maintenant dans celles que ton Fils nous a enseignées et que nous te disons d'un même cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, Père très saint, nous te le demandons, envoie sur nous ton Esprit Saint pour qu'en recevant ce pain et en buvant à cette coupe, il nous soit donné de communier au plus intime de notre vie, au corps et au sang de ton Fils, le ressuscité, et de sentir ainsi la réalité de ta présence au plus profond de nous. Amen.
Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour nous.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle versé pour la multitude et pour la vie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alors, heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être les invités au festin de la vie. Nous sommes tous les invités. C'est le Seigneur lui-même qui nous invite à sa table. Oui, frères amis, paroissiens fidèles, amis d'un jour, visiteurs, vous êtes toutes et tous les invités au festin de la vie. C'est le Seigneur lui-même qui nous convie à sa table. Nous communierons en défilé, en commençant par les personnes qui sont assises à l'arrière de la nef, sur deux colonnes, puis nous vous tendrons le pain ou les coupes de vin ou de jus de raisin marquées d'un ruban bleu. Puis vous voudrez bien regagner vos places par les travées extérieures. J'invite maintenant les personnes qui doivent m'aider à servir la scène à s'avancer. Et j'invite l'Assemblée à venir sur deux rangs pour recevoir la Sainte Seine. Je vous invite à vous approcher par l'arrière. Je vous invite à vous avancer.
Dans l'abîme de la mort, la résurrection du Christ plante à jamais la vie. La mort est vaincue. Son cortège de peur, de souffrance et d'angoisse est définitivement désarmé. L'humanité entière, à la suite du Christ sorti du tombeau, franchit les portes de la vie. Amen.
Une ou deux toutes petites annonces, le temps de laisser à Vincent le temps de grimper jusqu'à l'orgue, pour vous dire que nous allons dans un instant chanter le cantique que vous attendez tous, pendant lequel l'offrande sera recueillie, et pour vous dire encore que la semaine prochaine, nous aurons la chance d'accueillir Vincent Schmitt pour le culte de dimanche prochain. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce culte. Merci évidemment à nos musiciens, à Serge Hilg et à son chœur, à Vincent Thévenin et à vous tous qui avez contribué à ce moment. Je vous invite à vous lever pour chanter « À toi la gloire » avec tout notre cœur. Ô Christ ressuscité, en ce matin de Pâques, une aube nouvelle se lève. Tu as traversé la mort, tu as fait jaillir la vie. Viens rouler la pierre de nos tombeaux, viens nous relever de toutes nos morts. Fais de nous tes témoins, sois notre compagnon de route, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à prendre place un instant. Je vous invite à vous lever. Pour recevoir de la part du Seigneur l'assurance de sa bénédiction. À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de vie éternelle. Oui, que ce Seigneur de la vie nous accompagne et nous bénisse. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous conduisent dans sa paix et ouvrent sans cesse devant nous un chemin de vie. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Joyeuse fête.